Vous écoutez RFI, les 20h en temps universel, 22h à Paris.
Clémentine Pavlotsky.
Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile. Alexis Guilleux est avec moi en studio pour le présenter. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Clémentine.
Nous serons d'abord à Portland aux États-Unis. La population continue de manifester contre les violences de la police. Le maire de la ville est descendu dans la rue hier soir pour soutenir les manifestants. Nous parlerons ensuite de la situation au Yémen. Le pays est en guerre depuis 6 ans et selon l'ONU, 2 Yéménites sur 3 sont en situation d'insécurité alimentaire.
L'Inde est également à la une. D'anciens malades du coronavirus vendent leur sang.
Ce trafic est illégal, mais il permettrait de guérir des malades du Covid-19. Notre correspondant à New Delhi nous expliquera tout cela. Et dans le nord de la France, 12 migrants ont été secourus alors qu'ils tentaient de traverser la Manche.
Le journal.
Un journal.
En français facile.
En français facile.
Les manifestations se poursuivent à Portland, dans le nord-ouest des États-Unis.
Les manifestants descendent dans la rue tous les soirs depuis 56 jours pour dénoncer les violences de la police. Hier soir, la situation dans le centre-ville de Portland était tendue. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes contre les manifestants. Ces gaz ne sont pas dangereux pour la santé, mais ils font mal aux yeux. Le maire démocrate de la ville, Ted Wheeler, était lui aussi dans la rue hier soir pour soutenir les protestataires. Et il a été visé par ces gaz lacrymogènes de la police. Loïc Piala.
Rien n'indique que les forces de l'ordre savaient qu'ils se trouvaient près des barrières. Mais les images d'un maire gazé ne sont pas idéales en matière de relations publiques pour Washington, même si le maire en question, Ted Wheeler, fait partie du camp démocrate. La nuit dernière, il a rejoint les manifestants devant le palais de justice de Portland, un bâtiment fédéral protégé par les agents que Donald Trump a déployés sur place pour, dit-il, reprendre le contrôle de la ville. La police locale a désormais l'interdiction de collaborer avec eux. Si les manifestations n'ont pas attendu la présence de ces agents fédéraux pour déraper, les débordements n'ont pas diminué depuis leur arrivée. Au contraire, la situation inquiète dans le pays. Le président américain a en effet décidé d'appliquer la même stratégie dans d'autres métropoles américaines. Le centre-ville de Portland, en tout cas, s'attend à une nouvelle nuit agitée. Loïc Piala, Portland, RFI.
5 présidents d'Afrique de l'Ouest sont à Bamako, la capitale du Mali.
Ces 5 chefs d'État ont un objectif commun, aider le Mali à sortir de la crise politique. Il y a le président du Nigeria, Mohamedou Bouary, l'Ivoirien Alassane Ouattara, le Sénégalais Macky Sall, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le président du Niger, Mahamadou Issoufou, qui est aussi l'actuel président de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour rappel, depuis le début du mois de juin, le mouvement de contestation M5, composé de membres de l'opposition, de religieux et de la société civile, demande la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta.
La situation au Yémen inquiète l'Organisation des Nations Unies.
Selon l'ONU, le pays est confronté à la pire crise humanitaire au monde. Le Yémen est en guerre depuis 2014. 20 millions de personnes sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Cela signifie qu'elles ne mangent pas à leur faim. 20 millions de personnes, cela représente 2 Yéménites sur 3. Elisabeth Birx est la porte-parole du Programme Alimentaire Mondial, l'agence de l'ONU qui lutte contre la faim dans le monde. Et selon elle, la situation est très urgente.
La situation humanitaire au Yémen est en train de se détériorer de façon dramatique. Le Yémen est en train de faire face à des crises sur des fronts multiples. On voit qu'il y a une escalade dans les conflits et également, en plus de tout cela, le coronavirus. Donc, si nous n'agissons pas vite dans ce qui concerne la sécurité alimentaire et si on attend que l'on déclare la famine, il sera trop tard pour beaucoup de personnes au Yémen. Et c'est ce qui nous inquiète le plus. Il nous faut d'urgence, d'ici à la fin de l'année, la somme de 737 millions de dollars pour pouvoir continuer à nourrir plus de 20 millions de personnes. Et cette assistance humanitaire d'urgence est vitale.
Elisabeth Birx, la porte-parole du Programme Alimentaire Mondial, des propos recueillis par Sami Boukhelifa.
L'Inde est le 3e pays le plus touché au monde par le coronavirus et les autorités ont du mal, des difficultés, à réduire le nombre de malades.
En 24 heures, le pays a enregistré plus de 45 000 nouveaux malades et 1100 décès. C'est la première fois que l'Inde enregistre un bilan aussi inquiétant. Et dans ce contexte, certains patients, aujourd'hui guéris du Covid-19, ont décidé de vendre leur plasma. Le plasma, c'est la partie liquide du sang. Elle peut aider les personnes infectées par le Covid-19 à guérir, mais ce trafic est totalement illégal. Correspondance en Inde de Sébastien Farcy.
Des personnes qui ont survécu au Covid-19 vendent leur plasma pour des sommes allant de 500 à 5500 euros la dose. C'est une enquête en caméra cachée menée par la chaîne d'information India Today qui révèle ce marché noir. Le plasma de patients récemment guéris est devenu précieux car il permet d'offrir des anticorps à des malades infectés et évite souvent le recours au ventilateur. De nombreux hôpitaux indiens réalisent ces transfusions de plasma et deux centres de dons ont récemment été créés à New Delhi, mais les patients ne peuvent en recevoir que si un de leurs proches offre son plasma en échange. Cela peut donc alimenter ce commerce de plasma de personnes guéries. Le chef du gouvernement de New Delhi, Arvind Kejriwal, assure qu'il n'y a pas besoin d'acheter ce plasma car les hôpitaux peuvent en fournir en urgence.
Le plasma de notre banque est donné gratuitement. Nous en avons 500 en stock et nous disposons de tous les groupes sanguins. Donc je ne comprends pas pourquoi certains en vendraient ou en achèteraient.
Les hôpitaux publics habilités à extraire le plasma affirment qu'ils n'en distribuent pas en dehors de leur établissement au réseau hospitalier. Le ministre régional de la Santé assure quant à lui que toutes les personnes impliquées dans ce trafic seront poursuivies, acheteurs comme revendeurs. Sébastien Farcy, New Delhi. RFI.
Les journaux en français facile.
La France appelle le Liban à des réformes urgentes pour sortir de la crise.
Le message a été martelé, déclaré cet après-midi par le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian est arrivé ce matin à Beyrouth, la capitale du Liban. Il restera deux jours dans le pays. Jean-Yves Le Drian a été reçu par le président libanais Michel Aoun. Il a également rencontré le chef du gouvernement Hassan Diab. Et il s'est ensuite entretenu avec le chef du Parlement Nabi Berri. Une visite qui intervient alors que le Liban connaît actuellement la plus grave crise économique de son histoire.
Dans l'actualité française également, la présentation d'un vaste plan en faveur des jeunes.
Le gouvernement a décidé de mettre le paquet sur l'emploi des jeunes. C'est la formule du Premier ministre Jean Castex qui a présenté ce plan aujourd'hui lors d'un déplacement à Besançon dans l'est de la France. Ce plan sera doté de 6,5 milliards d'euros sur 2 ans et une mesure phare, une aide à destination des entreprises de 4 000 euros pour favoriser 450 000 embauches d'ici au mois de janvier 2021.
12 migrants ont été secourus en baie de Somme, dans le nord de la France.
Ces 12 migrants ont tenté de traverser la Manche, la mer qui se trouve entre la France et le Royaume-Uni, mais les vagues les ont repoussés sur la plage de Cailleux-sur-Mer. Le récit de Christine Siebert.
La distance entre Cailleux-sur-Mer et les côtes anglaises est grande, trois fois plus grande qu'entre Calais et Douvres. Mais en raison de l'important dispositif de surveillance sur le littoral du Pas-de-Calais et du Nord, certains migrants tentent de traverser la Manche plus au sud. La tentative de ces migrants a échoué très vite. Selon la gendarmerie, dès la première vague, leur embarcation a été ramenée sur la plage d'où ils étaient partis. Des patrouilles de recherche ont été lancées pour retrouver d'autres migrants qui participaient à cette tentative de traversée. Ils auraient pris la fuite à terre. En revanche, aucune opération de recherche en mer n'a été engagée. Les 12 migrants ont été transportés à l'hôpital d'Abbeville, l'un d'entre eux en hypothermie.
Explication signée Christine Siebert. La Belgique durcit ses mesures de lutte contre le Covid-19.
À partir de samedi, le port du masque sera obligatoire dans les espaces en plein air à forte fréquentation, c'est-à-dire les marchés ou les rues commerçantes. Un système de traçage sera également mis en place dans les bars et les restaurants. En d'autres termes, les clients devront laisser leurs coordonnées, leur numéro de téléphone par exemple, pour être contactés si un nouveau foyer de contamination apparaît. Les autorités belges n'excluent pas de reconfiner la population si la situation s'aggrave. Et puisqu'on parle du Covid, notez qu'RFI vous propose une édition spéciale sur le sujet demain matin, entre 6h et 7h en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir écouté. Et merci à Alexis Guilleux qui m'a accompagné.
Merci Clémentine.